Le débat du jour. Romain Ozoui.
Le compte à rebours continue de défiler. Désormais, c'est dans moins de 4 mois que Paris accueillera le plus grand événement de la planète, les Jeux Olympiques. Puis, dans la foulée, les Jeux Paralympiques. Alors, en tant que pays hôte, la France compte bien briller. La preuve pour les JO, l'objectif, c'est de terminer à la 5e place au classement des médailles. On est loin des standards des dernières éditions parce que la France n'a pas réalisé une telle performance depuis les Jeux d'Atlanta en 1996. D'où notre question ce soir dans le débat du jour. Est-ce que la France a les moyens de ses ambitions? Et d'abord, quels sont les moyens français? Quel est le plan pour Paris 2024? Quelles sont les raisons d'espérer? Ou bien, est-ce qu'il faut ne pas se leurrer? Comment être prêt le jour J? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Fabien Archambault, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire des cultures sportives et politiques. Et j'ai cité votre ouvrage, Les légendes du siècle, une histoire des Jeux en 12 médailles. Face à vous, Michel Godard, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur du CREPS Île-de-France. Le CREPS, c'est le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, secrétaire général de la Fédération française de handball.
C'est ça. Rémi
Carmignani, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité également en studio avec nous, chercheur à l'école des ponts ParisTech, au laboratoire d'hydraulique Saint-Venant, membre du programme Science 2024, projet de recherche dédié aux Jeux Olympiques de Paris. On va évidemment en parler dans ce débat. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, premier sentiment un peu général, je me tourne vers vous Michel Godard, vous qui êtes expert en tant que directeur du CREPS Île-de-France, avant d'évoquer les moyens mis en place en vue de Paris 2024, où est-ce que vous situeriez le niveau moyen de performance sportive des athlètes français à moins de 4 mois du début des JO, bah, par exemple par rapport à d'autres Olympiades qui ont pu avoir lieu précédemment?
Oui, c'est difficile de faire une comparaison avec les autres Olympiades, mais moi j'annonce très clairement que la France fera troisième aux Jeux Olympiques de Paris. C'est quelque chose qui, en fait, il y a une dynamique qui est lancée, il n'y a jamais eu autant de moyens, et puis j'ai même envie de dire que ça frétille un peu dans certaines fédérations qui n'ont jamais eu de médailles, et je pense que certaines fédérations vont aller chercher des médailles là où jamais elles n'ont trouvé. Quoi.
Vous pensez à quoi?
Bah, le badminton, le tennis de table ou des choses comme ça, je pense qu'il y a des choses peut-être à aller chercher là.
Ouais.
Et au-delà du fait que certaines fédérations, bah, j'espère entre autres la mienne, c'est le handball, nous on envisage deux titres. Donc, puisqu'on les a, on va essayer de les garder.
Ouais. Alors c'est intéressant ce que vous dites parce que il y a eu la projection d'un tableau virtuel des médailles, vous avez sans doute suivi ça pour Paris 2024. Ça a été publié en février par l'Institut Grace Knott Nielsen. Alors pour proposer de telles données, d'abord j'explique la méthode. Cet institut a analysé les résultats individuels et collectifs des Jeux Olympiques, Championnats du monde et Coupe du monde précédents. Il en ressort et bien que la France serait au troisième rang, comme vous le dites, Michel Godard. Est-ce que vous êtes aussi optimiste, Fabien Archambault?
Alors moi j'en sais rien, c'est-à-dire que je suis vraiment pas un spécialiste, on va dire, de la performance sportive, plus de la perception de cette performance sportive. Ce qui est intéressant, c'est que on suit, enfin c'est un effort centenaire. C'est-à-dire que la précédente fois que la France a organisé les Jeux Olympiques d'été, c'était en 1924, et c'était les premiers Jeux, en gros, il y avait déjà eu Anvers, où c'était déjà un peu le cas, où le gouvernement français avait considéré qu'il était important que la France figure bien au classement général des médailles. C'est-à-dire que c'est seulement à partir de 1924, que la performance de la délégation, enfin, quelle qu'elle soit, hein, d'une délégation au JO, commence à être la mesure, l'étalon de la puissance plus générale d'un pays. Et à partir de ce moment-là, tous les États, quel que soit le régime, quelle que soit l'époque, développent des stratégies pour bien figurer dans ce classement général des nations. Donc le début, alors la France, hein, ça a été deux piliers essentiels, qui ont été l'école et l'armée. Ça a finalement fonctionné, hein, c'est-à-dire qu'à la fin du XXe siècle, au JO d'Atlanta, la France a des très bons résultats, elle gagne la Coupe du Monde en 1998. Donc en gros, il y a eu un investissement de l'État pour s'adapter à ses adversaires, essentiellement, c'est-à-dire quels étaient les recettes des Américains, des Soviétiques, des Scandinaves, pour les concurrencer. Et la France a développé un modèle assez original, où on s'appuie sur l'expertise de l'armée, des institutions civiles qui dérivent de l'armée, donc c'est l'INS qui devient l'INSEP, etc.
Qui gère le haut niveau.
Et l'école qui est là pour massifier la pratique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est vraiment tous les gouvernants et tous les types de régimes qui ont poursuivi le même objectif. Massification de la pratique, d'où émergera une élite athlétique, et cette élite a longtemps été prise en charge par l'armée. Le problème, c'est que tout s'est grippé un peu juste après Atlanta. 97, c'est la fin du service militaire. L'armée, en gros, est dépossédée de sa mission sportive, qui était d'accompagner les athlètes de haut niveau, en partenariat avec l'INSEP. Ouais. On continuera à en parler.
Oui.
C'est que là, il y a un autre modèle qui a émergé.
L'INSEP, c'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, et c'est l'établissement qui, depuis 40 ans, en gros, forme les athlètes français de haut niveau. Alors, on va évoquer les moyens. On a commencé à toucher du doigt les ambitions avec Michel Godard, mais je veux rebondir sur ce point important. Vous avez commencé, Fabien Archambault, à évoquer finalement l'enjeu finalement de ces Jeux de Paris 2024. Pourquoi est-ce que c'est important de bien figurer? Avant de passer la parole à Rémi Carmignani, Michel Godard, vous qui êtes justement directeur du CREPS Île-de-France, une structure de sport de haut niveau, quelle différence il y a dans l'enjeu Paris 2024, par exemple à Tokyo 2021 ou d'autres Olympiades précédemment? Pourquoi est-ce que c'est si important?
Je crois que on est à la maison, hein. C'est important de réussir à la maison. Je crois que toutes les fédérations se sont mis dans la tête que une performance à Paris 2024, c'est une performance qui va leur servir, pour être pour se développer derrière. C'est-à-dire que la performance, bien entendu, et je parlerai du handball, la performance, ça permet après le développement de la pratique, ça permet aussi d'amener des sponsors, des télés, ça permet de faire un certain nombre de choses qui font que le sport se développe, et tous les sports ont besoin de se développer. Alors en diversifiant peut-être les pratiques, en touchant un peu tous les publics, que ça soit du public plus âgé ou du public en situation de handicap ou etc etc. Donc les sports ont cette envie de gagner en licence, parce que c'est plus reconnu, et plus c'est reconnu, oui, plus c'est médiatisé, c'est attractif, et ça fonctionne comme ça.
Et la vitrine est plus forte pour Paris 2024?
La vitrine est plus forte, hein. Comme je l'ai dit.
Donc, on plus
est
d'enjeux de médiatisation.
Tout le monde compte que finalement, les sports sont médiatisés, forcément, on les voit à la télé. Et puis nous, on travaille actuellement. La Fédération d'handball travaille à l'accueil de nombreux licenciés nouveaux et de nouveaux bénévoles. On prépare l'héritage des Jeux, et sur cette dimension-là, c'est-à-dire comment on va faire 100 000 licenciés de plus, comment on va les accueillir en septembre 2024, et comment on va mettre en place un dispositif justement de bénévoles qui vont accompagner cette discipline qu'est le handball.
Bon, les moyens, venons-en, parce que on a dit cet objectif fixé par, alors c'est très politique, hein, c'est fixé par le chef de l'État, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, figurée dans le top 5. Pour y parvenir, donc d'importants moyens qui ont été mis en place. Est-ce que vous diriez, Rémi Carmignani, puisque vous qui participez à un projet de recherche dédié aux Jeux Olympiques de Paris, est-ce que vous diriez qu'il y a véritablement un plan Paris 2024?
Alors, sur de plan, je suis pas sûr de la saisir. Par contre, en tout cas,
plan dans le sens où est-ce qu'il y a effectivement des budgets qui ont spécifiquement et à temps été mis en place pour permettre aux athlètes français de briller au JO de Paris 2024 et pour atteindre les objectifs qui ont été fixés?
Alors oui, il y a des choses exceptionnelles qui ont été mises en place en 2020. Donc ça, c'était sous Édouard Philippe, le Premier ministre. Donc c'est l'enveloppe du Premier ministre qui a fixé ce budget de 20 millions d'euros qui ont été mis. Alors pour comparaison, pour donner les ordres de grandeur, parce qu'on dit 20 millions comme ça, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Il y a eu 20 millions d'euros pour 4 ans, donc de 2020 à 2024. Ça a financé 12 projets de recherche, donc à peu près 1,6 million par projet. Hein. En comparaison, ce qui était fait avant, il y a des budgets qui étaient dédiés au très haut niveau, qui étaient de 500 000 euros par an. Donc on parle de 2 millions sur 4 ans. Donc c'était x10, là. Donc on a changé d'échelle. Et il y a des nouveaux acteurs aussi qui sont rentrés en jeu. Donc en particulier, moi je représente un peu Science 2024. C'est ouais. Les acteurs des grandes écoles. Alors j'ai bien aimé le point de vue historique avec la notion du sport avec l'armée qui vient. En fait, finalement, c'est un peu le même mécanisme qui est en jeu parce que nous, on, dans le Science 2024, on a des écoles militaires comme l'école polytechnique qui est d'ailleurs le porteur de ce projet Science 2024, associé avec le Centre national des sports de la défense, et on fait rentrer en jeu tous les mécanismes des écoles d'ingénieurs qui jusqu'à maintenant jouaient pas forcément le jeu du haut niveau. Et donc on a pas mal de nouveaux types de profils qui sont rentrés en jeu pour étudier le sport de haut niveau.
Science 2024, clairement, bon, ça porte son nom 2024, mais ce type de dispositif n'a jamais été mis en œuvre précédemment.
Bah, pas à cette échelle-là, et du moins pas avec les grandes écoles.
Ouais.
En tout cas, les grandes écoles, elles faisaient pas ça, il n'y avait pas de projet de recherche. Alors, les projets de recherche, on va dire, sur le sport, dans les grandes écoles ou dans les écoles d'ingénieurs, on en avait dès 2008. En fait, en tout cas, il y a des petits projets de recherche. En général, il y a toujours des chercheurs, des physiciens qui aiment bien regarder un peu le sport, parce que c'est une façon de montrer... d'appliquer des connaissances assez avancées, par exemple mécanique des fluides, la trajectoire d'une balle de foot, on retrouve la spirale de Roberto Carlos, comment on peut expliquer cette trajectoire. Donc c'est toujours intéressant de montrer, de regarder ça avec ce spectre-là. Mais en tout cas, en fait, c'était pas directement utile à la haute performance.
Et puis c'était pas dans un projet précis, dans un objectif précis, comme c'est le cas. Est-ce que vous pouvez rapidement nous détailler ce projet, donc Science 2024, et en quoi ça peut servir les ambitions de la France, puisque c'est la question de notre débat ce soir.
Alors nous, la démarche qu'on a eue en Science 2024, ça a démarré un peu avant, juste après l'annonce en fin 2017 de Paris serait hôte des Jeux de 2024. Le lancement officiel a été en 2018, mais on a commencé à cogiter avant, et on a mis en place en fait un mécanisme pour répondre à des questions, mais directement utiles aux athlètes. On appelait ça des extractions. Donc on allait voir toutes les fédérations. Et on se regroupait avec des entraîneurs et des représentants des fédérations pour discuter avec eux et savoir quelles étaient les questions qu'ils avaient et quelles questions auxquelles nous on pouvait apporter des réponses avec les outils qu'on connaissait déjà. On avait un peu commencé par classifier ça en trois grandes catégories. On avait ce qu'on appelait les croyances, des nations qui font pas la même chose mais qui performent aussi. Donc par exemple, on pourrait donner l'exemple en aviron, certaines nations aiment avoir les coques très lisses et d'autres rugueuses. Donc qu'est-ce qui est mieux, rugueux ou lisse? Donc ça c'est plutôt une croyance, on va dire. Et on peut essayer de la science peut répondre à la question de laquelle des deux est bonne, ou en fait est-ce qu'il n'y en a pas. En fait, finalement, il n'y a pas forcément toujours de réponse tranchée non plus à ce niveau-là. On avait des recherches d'optimum. Donc là, on aime bien ça en fait. Dès qu'il y a une recherche d'optimum, il y a une question de modélisation, et c'est de trouver un modèle qui permet de converger vers un optimum. Et après, il y avait les outils de quantification simplement. En fait, on va dire que l'entraîneur a un œil, il voit des choses. Mais il n'est pas capable forcément de le mesurer. Et donc nous, on était là plutôt pour apporter des outils de mesure. Par exemple, moi, je travaille sur la natation, ça pourrait être un nageur comme Maxime Grousset, peut-être que tu déclenches pas ton ondulation assez tôt, assez tard. Enfin, c'est finalement mesurer cette notion de timing. Nous, on est capable de développer des outils pour ça.
C'est un œil scientifique finalement
qui vient compléter l'œil de l'entraîneur.
Au service du sportif et de l'œil de l'entraîneur. Michel Godard.
Oui, je voulais compléter ou alimenter le débat. Alors, il se trouve que quand j'étais à l'INSEP, c'est moi qui gérais les 500 000 euros de l'INSEP. Donc, je les connais bien.
Vous avez été effectivement pendant 11 ans directeur général adjoint.
Vous êtes bien renseigné.
De l'INSEP.
En fait, je gérais ça, mais en fait, qu'est-ce qu'on faisait à l'époque? On faisait du saupoudrage. C'est-à-dire que les fédérations venaient avec un projet de recherche, avec un chercheur, et puis on leur donnait quelques milliers d'euros, et on leur disait, là, on a, comme l'a dit le collègue, c'est qu'on a changé de dimension, on a changé de braquet. Mais on avait fait quelque chose qui était important à l'époque, c'était de dire que, en fait, l'objet de recherche, il venait du terrain. Parce que trop longtemps, les chercheurs venaient avec un objet de recherche qui leur servait à eux, mais qui servait pas forcément le sport. À l'époque, il y a 15 ans, on a déjà changé le modèle en disant c'est l'objet de recherche, il vient du terrain. Et là, on était parti là-dessus, ce qui était déjà une belle avancée à l'époque. Maintenant, avec les arrivées des moyens supplémentaires importants, la seule chose que je nuancerais, c'est que on sait que les projets de recherche, ça dure quelques années, qu'il y a un thésard, que ceci, que cela. Est-ce que tout ça va être mis en œuvre qui permettra de faire avancer la discipline? Je nuancerais quand même les choses, parce qu'il faut quand même du temps. En revanche, ce que je veux dire, c'est que maintenant, je crois que c'est justement le scientifique qui va faire avancer le sport. C'est le scientifique qui va faire. Pourquoi ? Parce que maintenant, la technique, la tactique, entraîner, on sait faire. La méthode d'entraînement, on sait faire. Maintenant, la science au service du sport, c'est ça qui va déclencher vraiment des résultats supérieurs.
Et comment situe la France dans ce domaine, justement, du rapport entre sport et science, en tout cas science pour doper le sport ? Est-ce que la France est plutôt à la pointe ?
Alors, je vais vous dire juste une chose au niveau français, parce qu'au niveau international, j'en sais rien.
Rémi Carmignani.
C'est le terme dopé qui me fait.
Oui, sans mauvais jeu de mots.
Michel Donc, Godard. Ce que je veux dire, c'est que au niveau français, seulement quelques fédérations se sont lancées dans l'accompagnement scientifique ou la science au service du sport, et c'est regrettable. Je pense que il faudrait justement que les fédérations, alors il y a des fédérations qui ont des moyens comme le rugby, le ski ou des choses comme ça, ou la voile ou même l'aviron, comme vous le dites, qui sont à la pointe de tout ça. Hein, mais il y a des fédérations qui ont pas mis la main dans la recherche, et c'est bien dommage. Peut-être parce qu'ils ont pas de moyens au départ, peut-être que maintenant ils vont en avoir un peu plus, mais seulement quelques fédérations se sont dit, ouais, la science va vraiment m'apporter quelque chose.
Je vais redonner la parole à Fabien Archambault, mais on parle beaucoup de la science. Est-ce que c'est Rémi Carmignani ce qui va permettre aux athlètes français d'atteindre leur objectif, l'objectif fixé par la France de terminer au moins au top 5 du classement des médailles? Ou est-ce que finalement, est-ce que c'est un épiphénomène, ou est-ce que c'est vraiment décisif, comme nous l'annonce Michel Godard?
Ah, moi, j'aurais pas la prétention de répondre que oui. En tout cas, nous, ce qu'on met en place. Enfin, du moins de mon point de vue, hein, sur le projet que je porte, enfin que je porte avec Ludovic Seffer de l'université de Rouen. Je pense pas forcément qu'on puisse s'attribuer. Enfin, c'est compliqué. On me demande toujours combien de médailles vous avez dans votre projet. C'est très compliqué parce que nous, en fait, finalement, on est peut-être un des facteurs de la performance, mais on n'est pas le seul. En fait,
vous n'êtes pas dans un objectif de résultat. Votre démarche Science 2024 s'inscrit pas dans un objectif précis de résultat.
Nous, on a l'objectif précis, c'est d'être utile aux sportifs dans leur préparation.
Comment on s'inscrit peut-être davantage au CREPS, Michel Godard? Il y a peut-être davantage, vous qui êtes directeur du CREPS Île-de-France, centre de ressources d'expertise et de performance sportive, est-ce que tout ce que vous faites finalement n'est pas dans un objectif de parvenir à ce top 5 au classement des médailles français?
Oui, nous, pour le coup, les CREPS travaillent pour l'avenir. Ouais. On n'est pas sur 2024, on est sur 2028-2032, et qu'on prépare les talents de demain. Ouais. Donc, à charge pour nous de mettre en place les moyens pour que ces talents puissent éclore assez rapidement, et puis qu'ils soient, comme je l'ai dit, accompagnés par une cellule scientifique, parce que, je le redis, ça fera la différence.
Mais ça fera la différence. Fabien Archambault, on parle beaucoup budget, on a parlé de millions d'euros. Vous avez évoqué Rémi Carmignani, le budget développé par les autorités françaises en vue de Paris 2024. Comment on peut expliquer le lien direct entre investissement financier et réussite sportive?
Il est direct.
Mais en quoi? Parce que la réussite du champion, elle est multiple, elle est complexe.
Alors la question, c'est comment est-ce qu'on fait éclore un champion? Donc de ce point de vue-là, il y a deux grandes écoles, mais qui finalement sont assez semblables, qui sont l'école soviétique, l'école soviétique au sens l'école socialiste, et l'école américaine. En gros, de toute façon, les États-Unis étant une société riche, il y a eu une pratique sportive qui s'est développée de masse, sur laquelle on a pu faire émerger une élite. Et dans les universités américaines, dès les années 20-30, il y a un lien avec les scientifiques. Ce lien, c'est-à-dire que c'est des universités pluridisciplinaires, et donc les boursiers qui sont là pour performer dans les championnats universitaires bénéficient d'un accompagnement qui est de plus en plus poussé, comme en Union soviétique, où là aussi il y a un enjeu politique pour l'Union soviétique de battre les pays capitalistes dans le domaine du sport. Et donc il y a un développement, il y a une pratique scientifique pour accompagner les athlètes. Alors là-dessus, ce qui est intéressant de voir, c'est deux pays comme la France et l'Italie qui, en gros, ont essayé, dont n'ont pas les mêmes moyens financiers que les deux superpuissances à investir dans le sport, mais qui ont plus travaillé au départ sur comment est-ce qu'un athlète qui est officiellement amateur peut avoir une pratique de haut niveau, c'est-à-dire de facto professionnel. Et donc ça a été des systèmes qui ont été mis en place progressivement. En France, par exemple, le fait qu'il y a des grandes entreprises publiques, c'est-à-dire les médaillés olympiques, quand on fait une sociologie des médaillés olympiques français, ils sont gendarmes, militaires, agent d'EDF, GDF, de la RATP, de la SNCF. Ce sont de facto des professionnels qui sont mis au service de la grandeur de la nation. Deuxième chose, l'Italie, comment est-ce qu'elle finance en gros le même système? Par le Toto Calcio. C'est-à-dire que les paris sportifs autour du football italien, il y a la moitié des bénéfices qui sont reversés au sport olympique pour être performant dans les différents domaines. C'est ce qu'ont fait les Anglais à partir de 96, où ils ont vraiment des mauvais résultats à Atlanta, et UK Sport. C'est-à-dire que les Anglais ont une tradition où l'État n'intervient pas dans le sport. C'est une pratique qui est strictement privée. Mais le basculement, le tournant de la fin des années 90, c'est-à-dire qui a été dramatique pour la France. C'est-à-dire que l'armée perd cette dimension de préparation des athlètes. Les grandes entreprises nationalisées sont privatisées. Et donc quand elles coupent dans les coûts, ça va être ces athlètes qui en gros qu'on laissait faire. Et donc les Anglais, eux, ont été très forts avec un attaque qui est juste un arbitre et qui, par exemple, va chercher des contrats pour les athlètes. C'est-à-dire qu'en gros, un athlète, il faut bien qu'il vive. Il faut lui préparer son après-carrière, il faut en gros lui financer un salaire pendant qu'il est athlète de haut niveau. Et donc les Anglais, de ce point de vue-là, à partir de 97, ils mettent des... Oui, c'est en centaines de millions de livres.
Je voudrais qu'on parle du plan, évidemment, mais est-ce que cette différence, c'est ce qui fait que la France a tant de mal à performer sur des Olympiades, sur peut-être des championnats du monde, ces dernières années en tout cas, et qui se donne aujourd'hui les moyens de réussir à Paris 2024?
Alors, je vais laisser répondre plus précisément mes collègues, mais à mon avis, il y a eu un temps d'adaptation du système sportif français, où l'État était très interventionniste, à une nouvelle réalité de l'économie du sport, où il y a des acteurs privés qui interviennent et qui, en France, n'avaient pas la tradition qu'il y a dans les pays anglophones, par exemple, du privé qui investit massivement dans le sport. C'est en train de changer, mais en gros, ça a pris 20 ans. C'est-à-dire qu'en gros, au début du 21e siècle, la France vit sur ses acquis d'un système fortement étatisé qui, en gros, a atteint son apogée à la fin du 20e siècle, mais qui commençait à s'épuiser. Et là, le moment de transition, c'est-à-dire où le modèle, c'est le modèle anglais.
Et donc la réussite, ce serait Paris 2024, et ce serait porteur. Enfin, ce que vous dites, en tout cas, c'est ça prête à l'optimisme. Est-ce que vous êtes d'accord, Michel Godard? Est-ce que Paris 2024 peut être un tournant sur le vous en plus qui êtes, vous évoquiez au Krebs, davantage tourné sur l'avenir au-delà de Paris 2024, évidemment. Par rapport aux différences de culture sportive qu'évoquait Fabien Archambault et l'évolution de l'engagement français sur cette question-là.
Oui, alors je vais essayer d'avoir une parole réaliste, c'est-à-dire que je partage ce qui est dit sur le fait que le privé non seulement s'investit beaucoup plus dans le sport, et notamment dans le sport de haut niveau, mais au-delà de ça, il faudra que le privé en fasse encore plus, parce que à la suite des Jeux, tout le monde sait que l'État va lever le pied, les collectivités publiques notamment, parce que ça se sent déjà, et puis l'État lèvera le pied. Donc cette bascule dont vous parlez, peut-être que c'est la bascule du fait qu'on prenne conscience que c'est le privé qui va ou qui ne va pas nous aider à réaliser les performances de demain et qui nous apportera les moyens de fonctionner. Et je pense, c'est très clair, l'État va diminuer ses subventions, enfin je dis l'État d'une manière générale, État et collectivité publique, et puis j'espère que, en fait, nous ce qu'on dit au club et ce que je dis autour de moi, c'est réfléchissons au privé, réfléchissons. Alors il se trouve qu'au Krebs Île-de-France, j'ai deux partenaires privés qui n'existe assez rarement dans les Krebs, d'avoir des partenaires privés. Mais ces partenaires privés, en fait, j'arrive à les obtenir parce que ils sont sur des causes. Et sur des causes, c'est-à-dire ils sont sur les économies d'énergie et sur le développement durable. Et là, les partenaires viennent chez nous pour ces choses-là. Ils viennent pas forcément pour de la visibilité ou pour aider des sportifs Pierre-Paul Jacques. Ils viennent sur des causes. Et sur des causes, c'est peut-être un axe sur lequel il faut travailler. Mais je confirme ce que vous dites, c'est le privé qui soutiendra le sport de haut niveau ou pas.
Ouais. En tout cas, oui, donc ça veut dire que finalement l'investissement de l'État, il est lié uniquement à Paris 2024. C'est parce qu'il y a cette échéance de Paris 2024 qu'il y a ces moyens qui sont mis en place. Vous évoquiez, je me retourne vers vous, Fabien Archambault, le plan londonien, parce qu'effectivement ça fait beaucoup parler, parce que la France a lancé très tardivement en 2020 son plan Paris 2024 via l'Agence nationale de la recherche avec un programme de 20 millions d'euros, alors que le Royaume-Uni ça a commencé juste après Atlanta 96 en vue de Londres 2012. Est-ce que, alors, malgré tout, on va atteindre non pas le top 5, mais le top 3, comme le dit Michel Godard, ou est-ce qu'effectivement, il aurait fallu s'inspirer du modèle anglais, faire comme les Anglais ?
Alors, pour du court terme, oui, à mon avis, ces investissements massifs viennent un peu tard, mais c'est ce que disait Michel Godard, hein, c'est, en fait, il y aura d'autres Olympiades qui suivront. Ouais. Finalement, c'est un peu comme les infrastructures parisiennes, hein, pour les transports. Les Jeux auraient eu lieu en 2028, ça aurait été mieux pour tout le monde.
Oui.
Ça aurait été plus près que ça ne va l'être maintenant.
Après, ce qui a été le cas pour les Anglais. Ils ont fait de meilleurs résultats à Rio qu'à Londres.
Ouais. Donc ça montre que le plan britannique est porteur. Et porteur au-delà de l'Olympiade concernée.
Alors après, c'est vrai.
Ouais. Qu'ils ont poursuivi.
C'est peut-être que c'est ce qui se passera.
Disons, en fait, la difficulté pour les Anglais, c'est-à-dire qu'ils sont restés en gros pendant un siècle sur l'idée que les élites sportives étaient les élites universitaires. Le sport avait été créé par des institutions privées, qui étaient des lycées privés et les grandes universités. Et donc, il était inimaginable que l'État se mêle de la politique sportive, qui était l'affaire d'acteurs privés. En 96, il y a un moment donné, ils sont confrontés au réel, c'est que s'ils continuaient comme ça, ils allaient devenir une puissance de second ordre en matière sportive. Et là où, en fait, la financiarisation des économies, la libéralisation du sport, les a fait qu'ils étaient comme des poissons dans l'eau, c'est qu'il y a une chose où l'État, est bon en Angleterre, c'est justement de réguler le marché. C'est juste d'arbitrer entre différents intérêts. Et donc, ils ont mis en place un système qui est adapté au monde tel qu'il fonctionne maintenant. Alors après, il y a des raisons, pourquoi est-ce que tout d'un coup l'État intervient dans les activités sportives, qui a été le problème de sécurité dans les stades. C'est-à-dire que c'est sous Thatcher, en fait, quand il y a du hooliganisme, où en gros on se rend compte que les autorités sportives, qui étaient indépendantes et autonomes jusque-là, ne sont pas capables de régler ces problèmes-là. Et donc il y a une certaine forme d'intervention de l'État, mais qui est toujours limitée. C'est-à-dire que les Anglais sont des libéraux, au sens où il faut pas dépenser trop d'argent, donc la loterie. La solution italienne. Donc c'est un mix entre l'Italie et Oxford et Cambridge.
On va trouver notre voie. Il nous reste un peu plus d'une minute. Rémi Carmignani, j'aimerais avoir le mot de la fin avec vous. Est-ce qu'on touche pas là finalement à la culture du pays, et est-ce que finalement on touche pas aux limites de la culture sportive française, puisqu'on a compris que l'État allait intervenir spécifiquement sur Paris 2024 moins après, et que la question c'est l'investissement du privé ou non, et est-ce que les entreprises privées sont prêtes à investir dans le sport de haut niveau comme elles le font ailleurs à l'étranger, et on peut citer tous les pays de sport.
Concernant l'État, je ne sais pas s'il y a encore des discussions qui sont en cours. On ne sait pas la hauteur des investissements, mais en tout cas, la porte n'est pas fermée. Moi, je voulais juste peut-être revenir sur les notions d'avenir, parce qu'on a parlé est-ce qu'on était capable nous de faire gagner des médailles. Ils allaient peut-être en gagner. On peut peut-être faire la différence entre pas de médaille, une médaille de bronze, une médaille d'argent, une médaille. Enfin voilà, ça se joue à tellement peu en fait que les travaux qu'on porte de la recherche d'optimum dont je mentionnais sont utiles, mais ils sont aussi utiles pour l'avenir, parce qu'en fait, on a grâce à ces projets accès aux meilleurs athlètes français. On a les moyens de les étudier. De chercher à comprendre comment eux ils sont assez proches en fait de l'optimum, et puis c'est un peu comme ça que fonctionne la physique en général. On observe l'environnement, on voit en fait, en général on a réussi à avancer la roue avant qu'on maîtrise les notions physiques qui étaient derrière, mais en tout cas une fois qu'on a compris comment ça marche, on peut peut-être le répéter sur les générations suivantes. Et c'est ça qui va être utile. Donc l'héritage, en fait, il faut pas l'oublier, même sur ces travaux.
On va terminer avec ce discours d'espoir et évidemment ce projet Science 2024 dont vous êtes le membre, Rémi Carmignani. Merci beaucoup, chercheur à l'école des ponts Paris Tech, au laboratoire d'hydraulique Saint-Venant. Merci Michel Godard, directeur du CREPS Île-de-France, secrétaire général de la Fédération française de handball. Et merci à vous, Fabien Archambault, historien, maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne. Merci à Florence Ponce à la préparation de ce débat, Arnold Assewa également, Claude Battista à sa réalisation. Allez, bientôt 19h59 ici à Paris. Au programme des prochaines minutes, c'est bien Marion Cazeneuve dans quelques instants, à partir de 20h, le journal puis le décryptage ce soir, l'Inde, où de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer une dérive autoritaire du pouvoir. Juste après, il sera déjà 20h30 ici à Paris. Bonsoir Victorien Villaume.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Ce sera l'heure de vous retrouver pour la première édition d'Afrique Soir. De quoi allez-vous nous parler ce soir?
Eh bien, on va parler du Gabon, Romain, qui ouvre demain son dialogue national avec l'objectif de poser un diagnostic sur le Gabon et réformer en profondeur le pays. Ce sera Sébastien Némette qui nous expliquera tout. Ne manquez pas non plus notre dossier sur le Burkina Faso, arrestation arbitraire de voix critiques du régime, massacre de civils par les djihadistes. On entendra l'inquiétude de la porte-parole du haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU.
Eh bien, à dans 30 minutes, Victor.
À dans 30 minutes, merci.